12h30, 13h, Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. À la une, le jour d'après, sur les Champs-Élysées, avec les commerçants qui découvrent avec effarement l'étendue des dégâts. Au moins 80 enseignes touchées, dont une vingtaine pillées ou victimes de départs d'incendie. Nous serons sur place. Nous verrons avec Pierre de Cossette si le dispositif des forces de l'ordre était adapté pour faire face à une telle violence. 200 personnes étaient toujours en garde à vue ce matin, dont 15 mineurs. Nous poserons aussi la question au porte-parole du syndicat Alliance, Stanislas Godon, il est mon invité. Emmanuel Macron, sous le feu des critiques de l'opposition qui écourte son séjour à la montagne et qui promet des décisions fortes, Aurélie Herbemont nous dira par quoi cela peut se traduire alors que la loi anti-casseurs vient d'être votée par le Parlement mais n'est toujours pas applicable car en cours d'examen par le Conseil constitutionnel. Dans le journal de la mi-journée, la Nouvelle-Zélande toujours sous le choc après la tuerie de Christchurch. Et la famille du tireur qui s'exprime pour la première fois. Le journal des sports avec le choc PSG-OM au Parc des Princes ce soir à 21h. Et la météo, régime d'averse et de giboulée, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1.
Pas de chiffres encore sur le montant des dégâts après les saccages hier sur les Champs-Élysées, devenu un véritable champ de bataille pour ce 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Mais ce sont au moins 80 commerces, boutiques ou restaurants qui ont été touchés, dont une vingtaine pillés ou victimes de départs d'incendie. Depuis ce matin, les commerçants et leurs employés font d'ailleurs avec effarement, Romane Auquel, état des lieux.
Oui, ce sont des commerçants amers, silencieux, qui balaient les morceaux de verre devant leurs vitrines éventrées. D'autres effacent les tags noirs qui défigurent leur devanture. Des dizaines de commerces saccagés et d'autres entièrement détruits. C'est le cas de plusieurs kiosques à journaux dont il ne reste que la structure, un tas de cendres où travaillait José.
J'ai perdu mon emploi, mais je suis révolté. Et si ce mouvement permet aux gens de nous foutre au chômage, c'était pas ça la solution normalement du mouvement. C'était pour qu'on puisse avoir du travail, qu'on puisse gagner dignement sa vie, pas pour qu'on refoute les gens encore plus sur la paille, tel que moi, quoi, à 45 ans. À un moment donné, il faut faire le tri, là. Il faut que les gilets jaunes se bougent un peu aussi les fesses. Parce qu'ils sont aussi responsables que le gouvernement. Les deux sont responsables.
D'autres commerçants sauvent ce qu'il reste. Les maçons, les menuisiers ont pris le relais des agents de propreté. On répare jusqu'au samedi suivant, me glisse une commerçante résignée. Depuis l'acte 1, 600 magasins parisiens ont été la cible des casseurs, comme l'explique Gérald Barbier, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
C'est entre 30 et 50% de perte de chiffre d'affaires, c'est-à-dire les consommateurs ne viennent plus le samedi à Paris et les touristes ne viennent plus non plus, en grande partie. Des établissements qui ont fermé pour l'instant, on n'en a pas, mais on va en avoir. Il y a des aides qui sont apportées, mais elles ne seront pas suffisantes. Il faut absolument que ça cesse.
Pour cela, le président du comité des Champs-Élysées, qui rassemble riverains et commerçants, a demandé à être reçu au plus vite par le Premier ministre Édouard Philippe.
Romane Auquel, en direct des Champs-Élysées à Paris. Alors, on prend la mesure avec ce que vient de nous dire Romane Auquel du saccage qui a touché l'avenue. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1 nous a rejoint en studio. Bonjour Pierre.
Bonjour Fabienne.
La question qu'on se pose ce midi, c'est est-ce que les forces de l'ordre avaient les moyens d'éviter de tels débordements ? En clair, est-ce que le dispositif était bien adapté alors que 5000 hommes étaient mobilisés en tout sur la capitale hier ?
Alors justement, la tentation, ce serait de comparer les chiffres, près de 5000 policiers et gendarmes pour, selon les prévisions des services de renseignement, 600 à 800 casseurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà un périmètre prioritaire à boucler, une zone qui comprend notamment le palais de l'Élysée et le ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il n'y a rien eu à signaler. Et puis après, il y a toujours la même question. Est-ce qu'on gèle les Champs-Élysées ? Est-ce qu'on filtre les accès ? On a vu ce que ça a donné le 1er décembre. Ce jour-là, ce sont l'Arc de Triomphe et les grandes avenues à proximité qui ont été visées. Hier, il a donc été décidé d'ouvrir les champs aux manifestants et donc aux casseurs qui s'y mêlaient. Avec ce constat, ce nombre de casseurs avait été sous-estimé. Ils étaient sans doute 1500, donc le double des 600 à 800 prévus. Il y a en ce moment 200 gardes à vue, mais interpeller, c'est une vraie difficulté face à des hommes très déterminés qui, on l'a vu, sont prêts à se ruer sur un fourgon de gendarmes mobiles ou arracher le casque de ce policier frappé à terre quand il a voulu mettre en fuite les pilleurs d'une joaillerie. En clair, éviter la casse, oui, mais la priorité, c'est la sécurité des personnes avant celle des biens. Les personnes, ce sont en particulier les forces de l'ordre elles-mêmes. Un haut responsable policier expliquait hier que parmi les objectifs de la journée, il y avait la protection de la marche pour le climat, éviter que des casseurs s'y mêlent. Finalement, s'il faut dire les choses franchement, en leur laissant les Champs-Élysées, on a évité leur dispersion et donc des incidents dans le reste de la capitale.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1, et on posera la question dans un instant au porte-parole du syndicat Alliance, Stanislas Godon, qui est mon invité. Alors, au vu des violences sur les Champs-Élysées hier, Emmanuel Macron, qui était en week-end à La Mongie dans les Pyrénées, a décidé d'écourter son séjour. Il est rentré dans la soirée à Paris. Il a rejoint la cellule de crise du ministère de l'Intérieur. Le chef de l'État a dit qu'il voulait prendre des décisions fortes et complémentaires pour que ces violences n'adviennent plus. Concrètement, Aurélie Herbemont, ça va se traduire comment ?
Eh bien, le chef de l'État a demandé à son gouvernement de plancher sur des propositions. Beauvau et Matignon travaillent dessus depuis ce matin. À 17h30, Édouard Philippe réunira d'ailleurs Christophe Castaner et son secrétaire d'État, Laurent Nunez, pour en parler. Alors, on ne sait pas encore sur quelles nouvelles mesures ça pourrait déboucher. Un conseiller du Premier ministre mise en tout cas beaucoup sur l'application prochaine de la loi anti-casseurs. Problème, elle est actuellement examinée par le Conseil constitutionnel. C'est l'opposition de gauche qui a saisi les sages, mais aussi le chef de l'État qui voulait s'assurer que cette loi respectait bien les libertés publiques, car elle fait polémique jusque dans les rangs de la majorité où 50 députés se sont abstenus. Rappelons que cette loi prévoit des interdictions préventives de manifester, la création d'un délit de dissimulation du visage dans les manifs, mais aussi des fouilles, et on ne sait pas si toutes ces mesures seront validées par les sages. En attendant, l'exécutif est sous pression, l'opposition accusant le gouvernement d'impuissance et d'incompétence face aux violences.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, on aura retenu cette réunion à Matignon ce soir à 17h30. Vous parliez à l'instant de la pression que met l'opposition sur le gouvernement. Exemple ce matin avec Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui était l'invité d'Europe 1.
Il y a effectivement aujourd'hui un gouvernement qui, à l'évidence, ne fait pas son travail. Ça fait 18 semaines, ça fait pas deux jours qu'on se retrouve avec des manifestations violentes et qu'on a le sentiment d'un pouvoir impuissant alors qu'il a face à lui 1000 casseurs. Il y a des semaines où ils ont réussi à appréhender de simples manifestants et en revanche, pour les casseurs, c'est pas possible. Il y a quand même là une difficulté et je vois que chaque semaine, les déclarations se répètent. On a un pouvoir qui dit qu'il sera plus sévère la semaine suivante, mais en réalité, rien ne se passe. Et je me dis qu'il y a nombre de Français aujourd'hui qui s'inquiètent parce que c'est vrai que pour ces commerçants, pour tous ces Français qui veulent passer simplement des samedis sans avoir à craindre pour leur sécurité, oui, c'est inquiétant.
Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. À suivre, la Nouvelle-Zélande, toujours sous le choc deux jours après la tuerie de Christchurch, et la famille du tireur Brenton Tarrant s'exprime pour la première fois dans les médias australiens.
Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
12h39, la suite du journal, Fabienne Lemoyle.
La Nouvelle-Zélande, je vous le disais, toujours sous le choc alors que le bilan s'est alourdi. Désormais, il est de 50 morts après la tuerie de Christchurch. Les cérémonies se sont multipliées ces dernières heures pour rendre hommage aux victimes. Et pour la première fois, Jean-Sébastien Soldaini, les proches du tireur, ont pris la parole.
Et comme la maman du terroriste a été placée sous protection policière avec interdiction de rencontrer ses proches, c'est sa grand-mère qui s'exprime à la télé australienne. Elle dit avoir appris que le tireur était son petit-fils en voyant ses photos diffusées au journal télévisé.
Nous sommes tous sidérés. Nous ne savons pas quoi penser. C'est tellement difficile d'admettre que quelqu'un dans notre famille puisse faire quelque chose comme ça. Ce n'est qu'à partir du moment où il a voyagé à l'étranger, je pense que ce garçon a changé. Désormais, tout le monde est effondré, brisé, ce qu'il a fait est irréparable.
Elle évoque l'adolescence de Brenton Tarrant, passé à jouer aux jeux vidéo, des jeux dans lesquels il aurait appris à tirer. C'est en tout cas ce qu'affirme le tueur dans le document de 74 pages publié sur Internet et adressé à une trentaine de personnes 9 minutes avant l'attaque. Parmi les destinataires, il y a la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, qui l'affirme. Ce document a été transmis au service de sécurité dans les 2 minutes qui ont suivi la réception, mais il n'incluait aucun lieu ni aucun détail spécifique permettant de réagir dans les temps.
Jean-Sébastien Soldaini.
Europe 1, 12h40, Fabienne Lemoyle.
Retour en France avec le coup d'envoi aujourd'hui jusqu'à mardi du printemps du cinéma. Le principe est simple, vous payez 4 euros la place et vous pouvez voir tous les films que vous voulez dans n'importe quelle salle. L'occasion d'une séance de rattrapage si vous avez déserté les salles obscures ces dernières semaines. Et pour vous aider à choisir, écoutez bien les conseils de notre monsieur cinéma européen Mathieu Charrier.
Le film à rattraper, c'est le grand gagnant des derniers Césars, Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Il est ressorti en salle après son succès lors de la cérémonie. Jusqu'à la garde raconte le combat d'une femme pour s'émanciper d'un mari violent. C'est un chef-d'œuvre d'écriture et de mise en scène. Ensuite, bien sûr, il y a les grosses comédies, toujours à l'affiche. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, par exemple, dans la veine du premier ? Vous pouvez aussi rattraper Le Chant du Loup, film qui se déroule dans les sous-marins nucléaires français, porté par François Civil, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb et Omar Sy. C'est un vrai grand film d'action à la française, comme on en fait trop peu. À ne pas louper également Grâce à Dieu de François Ozon, qui revient sur la création de l'association La Parole Libérée pour dénoncer les actes pédophiles du père Prénat. Film ancré dans l'actualité, mais qui brille par sa pudeur et sa justesse. Si vous n'avez pas encore vu la dernière Palme d'Or du Festival de Cannes, Une affaire de famille, le film est également toujours en salle, signé du japonais Kore-eda, une fresque familiale positive sur la différence et la force du groupe. Enfin, un petit film d'animation à découvrir également, c'est Funan, qui à travers le destin d'une famille revient sur l'histoire du Cambodge entre 1975 et 1978, en pleine révolution Khmer Rouge. Un film fort mais parfois violent à montrer à ses enfants seulement à partir de 12 ans.
Mathieu Charrier pour ses judicieux conseils.
Le journal des sports.
Cyril de la Moridrie, c'est un autre cinéma avec vous. Donc football, 11 jours après sa piteuse élimination en Ligue des Champions, ça c'est vous qui le dites, Paris va essayer de se faire pardonner.
Oui, oubliez la débâcle contre Manchester United et retrouver le sourire. C'est l'objectif des Parisiens qui reçoivent ce soir leur adversaire historique, l'Olympique de Marseille. Évidemment, l'écart entre les deux clubs est énorme en ce moment. Le PSG a 27 points d'avance au classement sur son rival, a marqué deux fois plus de buts et en a encaissé deux fois moins que Marseille. Mais surtout, le club de la capitale n'a plus perdu face à l'OM depuis 2011, ce qui donne beaucoup de confiance, peut-être trop, on verra ce soir, au défenseur Lévin Kurzawa.
On craint pas l'Olympique de Marseille. Ils viennent chez nous, on va gagner ce match. Voilà, c'est un match important pour nous et pour les supporters aussi. On va avoir besoin d'eux, ça va être un match compliqué. Donc voilà, on espère qu'ils seront derrière nous.
Lévin Kurzawa avec Julien Froment.
Mais l'OM compte sur sa bonne forme pour surprendre justement le PSG.
Oui, les joueurs de Rudy Garcia restent sur 6 matchs sans défaite. Ça va beaucoup mieux, mais le Marseillais Dimitri Payet sait que la tâche s'annonce très compliquée ce soir au Parc des Princes.
On a envie de, bien évidemment de bien faire. Après, on sait tous que c'est difficile d'aller faire un résultat là-bas. C'est vrai qu'on est sur une période où on gagne. Donc bien évidemment, l'idée, ce serait de continuer cette belle série ou même d'aller, pourquoi pas, aller chercher un point si on ne peut pas gagner.
Dimitri Payet avec Yann Terrou.
Alors l'OM en bonne forme, mais la question c'est de savoir c'est est-ce qu'il sera là ou pas. Je veux parler de Mario Balotelli, c'est le feuilleton de ces dernières heures.
Effectivement,
quand même.
Officiellement il est malade. Hier il n'a pas pris l'avion, mais ce matin il aurait pris la direction de la capitale, il aurait donc pris l'avion. Je ne peux pas vous confirmer officiellement cette information, mais en tout cas c'est ce qui se dit du côté de Marseille. PSGOM, coup d'envoi 21h, émission spéciale des 20h sur Europe 1, présentée par Lionel Rosso.
À suivre donc. La 29e journée de Ligue 1 ne se résume pas à ce choc PSG-OM. Il y a d'autres matchs cet après-midi.
Oui, rapidement, Lyon, 3e de Ligue 1, éliminé de la Ligue des Champions, reçoit Montpellier à 14h30. À 15h, Reims face à Nantes. Et puis à 17h, Bordeaux face à Rennes. Du cyclisme, avec la dernière étape du Paris-Nice aujourd'hui. Une boucle montagneuse de 110 km dans le pays niçois. Départ prévu à 13h45. C'est le Colombien Bernal qui a repris le maillot jaune à l'un de ses coéquipiers. Bernal, membre de la prestigieuse équipe Sky, ultra dominatrice sur le Tour de France, ce qui irrite un peu Romain Bardet, 6e au général du Paris-Nice.
C'est pas une nouvelle, ils ont gagné combien de Tours de France ces 6 dernières années? Tous quasiment, non? Donc voilà, on sait à quoi s'attendre, c'est eux qui nous rendent la course difficile. Donc voilà, au 15 mars, ils sont bien supérieurs pour l'instant. Il n'y a plus qu'à baisser la tête, faire petit et travailler.
Propos recueillis par Axel May.
Le ski alpin avec une victoire pour Alexis Pinturo.
Oui, dans le dernier géant hier de la saison, mais un autre Français est en passe de s'imposer aujourd'hui, cette fois en slalom. Clément Noël a largement dominé la première manche. L'Autrichien Hirscher est quatrième, deuxième manche prévue à 13h15. Enfin, on rappelle en Formule 1. Ce matin, victoire du Finlandais Valtteri Bottas à Melbourne. Le pilote Mercedes a remporté le premier Grand Prix de la saison devant son coéquipier, donc en Australie, le champion du monde Lewis Hamilton, qui donc termine deuxième.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche. Au programme, Valérie Darmon, averse et giboulée jusqu'à ce soir.
Absolument, Fabienne. La dégradation qui ce matin touchait les régions allant de la Charente aux Ardennes glisse en ce moment même sur le sud et sur l'est du pays, donnant de la neige d'ailleurs sur les Alpes aux alentours de 800 mètres, sur les Vosges et le Jura aux alentours de 600. Et elle touche maintenant les régions allant de l'Aquitaine à l'Alsace et à la Lorraine. À l'arrière, donc, vous passez en ciel de traîne, c'est-à-dire donc des pays de la Loire au nord. Là, vous connaissez un régime d'averse qui est en train de se mettre en place, par moments soutenu avec du grésil et puis par moments quelques éclaircies. Et c'est aussi très orageux sur la Bretagne. Du côté de la Méditerranée, le ciel est plus variable. La tramontane va se lever et va atteindre 90 km/h ce soir. Les maximales sont en baisse pour tout le monde, avec 8 à 12 degrés au nord de la Seine, 11 à 15 ailleurs et encore 17 à 20 dans le sud-est sous le soleil.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, on va revenir avec mon invité Stanislas Godon, porte-parole du syndicat Alliance, sur ces scènes de violence sur les Champs-Élysées hier. Est-ce que le dispositif de force de l'ordre était adapté? On lui posera la question.
Il est 12h49, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle et votre invité.
Et on va revenir sur ces scènes de violence, donc hier sur les Champs-Élysées, magasins pillés, kiosques et boutiques incendiés, cette banque en feu avec une femme et son bébé évacués in extremis, et des forces de l'ordre violemment pris à partie, qu'on a senti parfois déborder. Avec moi en studio, Stanislas Godon, porte-parole du syndicat Alliance, bonjour.
Bonjour.
Tout le monde redoutait ce scénario, mais est-ce que la violence à laquelle vos collègues ont été confrontés hier n'a pas dépassé ce que vous attendiez? Christophe Castaner a parlé de professionnels de la casse venus semer le chaos à Paris et de 1500 casseurs ultra-violents.
Oui, il y avait des professionnels hier. Et surtout, à la base, il y avait quand même des propos qui ont été tenus sur des appels à ce rassemblement, et je ne vais pas appeler un rassemblement, à cet attroupement avec des troubles à l'ordre public extrêmement graves, des attaques en règle.
Des messages qui avaient été repérés par les services de renseignement,
tout
d'ailleurs.
Tout à fait. Et redisons-les, ces messages. C'est-à-dire des individus, des porte-paroles, des représentants, des figures emblématiques qui disaient « Je n'appelle pas à la violence, mais je n'appelle pas non plus à la non-violence. » Certains ont dit « Jusqu'à l'acte 17, j'appelais au pacifique. Et maintenant, j'arrête d'appeler à ce qu'on fasse des rassemblements pacifiques. » Donc, c'est vous dire, si ces propos-là peuvent être relayés par des individus qui veulent en découdre et qui veulent semer le chaos et contester notamment l'ordre républicain.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu justement neutraliser ceux qui ont parfois envoyé des messages, comme vous dites, ultra-violents sur Internet, je pense à des groupes autonomes ou de l'ultra-gauche, est-ce qu'ils n'auraient pas pu être maîtrisés en amont?
Alors maîtriser en amont, en fait, c'est dommage parce que depuis des mois...
C'est la question que les gens se posent.
Non, mais bien sûr, mais sauf que depuis des semaines, des mois, on parle de quoi? Il y a une polémique sur les contrôles préventifs, les arrestations en amont notamment, avec des individus qui venaient avec des bouteilles d'acide, avec parfois du liquide inflammable, des marteaux, et on nous a dit « Ah non, faut pas faire ça parce que on condamne l'intention d'eux et ce n'est pas juridiquement tenable. »
Certains autres syndicats disent « On aurait pu peut-être fouiller en amont ces personnes qui arrivaient sur les champs. Est-ce que c'était seulement possible ?
Alors attention, les champs n'étaient pas une fan zone telle que c'était prévu notamment le 1er décembre. Il n'y avait pas un périmètre totalement hermétique avec
des
fouilles systématiques.
Est-ce qu'il aurait fallu qu'il y en ait un ?
Alors ça, ce serait une erreur. Parce que le 1er décembre, on voit ce que ça a donné. D'abord parce que une fan zone sur les Champs-Élysées, ça mobilise beaucoup d'effectifs en statique. Ils ne sont plus mobiles et donc vous ne pouvez plus les bouger pour faire notamment des interpellations ou gérer des situations plus graves sur d'autres périmètres. Je rappelle, le 1er décembre, du coup, on s'est retrouvé avec 195 départs d'incendie, notamment au sein de la capitale et pas seulement sur le quartier des Champs-Élysées.
Ça veut dire que ce que vous nous décrivez, hier, on a vu cette extrême violent sur les Champs-Élysées avec 80 enseignes qui ont été touchées, une vingtaine de magasins ou restaurants avaient victimes de départs d'incendie. C'était plus violent ou moins violent que le 1er décembre?
C'était du même ordre, avec ceci près que là, il y avait un groupe très important de professionnels qui savent très bien utiliser, notamment les autres personnes qui se rendent sur ces lieux de rassemblement et qui savent en fait se fondre dans la masse pour éviter justement qu'on intervienne. Parce que c'est ça aussi la difficulté qu'il faut dire. C'est que si on fait des charges de 1500 personnes au milieu de 10 000, qu'est-ce qui va se passer? On va encore dire « Ah, mais la police est violente. Ah, mais la police, elle n'a pas interpellé les bons. Ah, mais la police, elle a fait ceci ou cela. »
Stanislas Godon, porte-parole du syndicat Alliance, je le rappelle, on en parlait avec Pierre de Cossette dans le journal. Est-ce que le dispositif mis en place hier était bien adapté à ce qu'on attendait, à cette violence?
Alors, c'était un dispositif qui, par rapport à ce que nous avions comme information, était, je dirais, calibré. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y avait pas 5000 effectifs seulement pour les Champs-Élysées, parce qu'il y avait d'autres événements qui se déroulaient au sein de la capitale.
On l'a dit dans le journal, il y avait effectivement la marche du siècle contre le climat, où il n'y a eu effectivement aucun incident.
Mais qui devait être encadré, parce que pour le coup, cette manifestation, elle était déclarée avec un service d'ordre, avec des relations avec la police. Et donc, nous, notre responsabilité en tant que policiers, c'est aussi d'assurer la sécurité de ces manifestations.
C'était quoi les ordres, par exemple, sur les Champs-Élysées, puisqu'on a eu l'impression parfois de vos collègues débordés, peut-être à leur corps défendant, c'était de ne pas aller au contact. C'était quoi les ordres donnés?
On a eu une double difficulté, c'est-à-dire qu'on avait d'abord, je redis, des individus extrêmement organisés qui attaquaient des escadrons de gendarmerie, on l'a vu, il y en avait certains qui
essayaient de sortir les conducteurs. On a vu ce policier effectivement à terre qui a perdu sa visière en très grande difficulté.
On a même eu des policiers qui ont interpellé des Black Blocs qui ont été libérés, vous savez par qui? Par des gilets jaunes. C'est vous dire dans quel cadre nous étions hier. Et puis, l'utilisation des armes intermédiaires, parce que parlons-en, depuis des semaines, on nous dit le lanceur de balles de défense, c'est dangereux. Là, hier, on a très peu utilisé de lanceur de balles de défense.
Votre secrétaire général adjoint a dit hier que les forces de l'ordre n'avaient pas les mêmes moyens hier pour riposter, puisque les munitions des LBD, de ces lanceurs de balles de défense, ont été changées. C'est-à-dire, vous nous le confirmez, ce ne sont plus les mêmes munitions?
Tout à fait, c'était des munitions beaucoup plus faibles. Et donc, d'abord, imprécise, ensuite qui n'avait aucun impact au-delà de 7 mètres, alors que nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait des armes précises pour éviter justement ce genre de polémique en disant « Ah mais non, les policiers ne savent pas tirer, ils ne savent pas viser ». Non, non, c'est pas ça. Il faut donner les moyens aux policiers d'intervenir, notamment avec les armes de force intermédiaire, pour éviter quoi? Pour éviter le corps à corps ou pour éviter l'utilisation des armes de service qui sont, elles, létales. Et je crois que personne ne voudrait que ces manifestations, que dans ces manifestations ou dans ces attroupements, il y ait notamment des morts.
C'est-à-dire que votre hiérarchie a choisi de changer les munitions.
Oui, exactement.
Est-ce que c'est ça qui vous a mis, pour vous, en difficulté
alors,
hier?
Ça ne nous a pas aidé, en tout cas. Ça, c'est sûr. De toute façon, il y a un problème avec les munitions qui sont utilisées. Depuis déjà plusieurs mois, on le dit, il faut utiliser ce qu'on appelle la munition CTS, qui est plus puissante, mais qui est plus précise. Et ceux qui nous disent il faut utiliser des armes intermédiaires avec des munitions moins fortes se trompent parce qu'elles sont moins précises.
Pourquoi ce changement de munitions?
Ah ben ça, vous poserez la question à ceux qui nous ont fait notamment les appels d'offres ou qu'on fait notamment livrer. Est-ce que c'est une histoire d'argent? Ça, faudra poser la question, parce que c'est souvent une histoire d'argent au sein du ministère de l'Intérieur.
Dernière question, est-ce que cette arme, justement, est la bonne arme intermédiaire contre, par exemple, des pilleurs?
Alors attention, elles sont plutôt des armes à utiliser, notamment en matière de riposte. Parce que
quand
hier,
vous êtes mis en danger vous-même sur le terrain.
Voilà, on a bien vu ces individus déceler notamment des pavés. Je rappelle juste qu'un pavé parisien, c'est à peu près 1,8 kg. Quand vous le prenez dans la tête, je peux vous dire que ça fait quand même des dégâts. Là, c'est l'occasion de riposter avec la gradation de la force légitime, avec l'usage de la force légitime, avec le lanceur de balles de défense.
En très court, Stanislas Godon, quand vous nous dites effectivement qu'il faut en appeler au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous dites à votre ministre, là, précisément aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé hier, comme décision, puisque Emmanuel Macron dit qu'il veut des décisions complémentaires?
Alors d'abord, promulguer la loi anti-casseurs, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est une loi importante.
Mais qui
donne des
outils. Mais qui, pour l'instant, est en examen au Conseil constitutionnel, mais par exemple, sur les LBD, concrètement.
Sauf qu'elle a été votée au Parlement. Donc maintenant, il faut qu'on mette des actes. Deuxième chose, s'il y a une révision de la doctrine d'emploi, qu'on nous associe à la révision de cette doctrine d'emploi, parce que pour l'instant, on a eu des annonces, mais on ne sait pas quel est le cœur de cette réforme. Et ensuite, il faut qu'il y ait toujours un soutien des policiers et qu'on leur donne les moyens de travailler correctement. En province, il y a encore des unités qui n'avaient pas de matériel de protection ce samedi, cet acte 18 notamment.
Merci beaucoup Stanislas Godon, porte-parole du syndicat Alliance après ces violences sur les Champs-Élysées hier. Merci beaucoup.
Et à partir de 13h, Fabienne, on va retrouver Sophie Larmoyer pour les carnets du monde. Aujourd'hui dans les carnets, entre autres, du ski de fond et de la tire à la carabine, c'est le biathlon. Les championnats du monde se terminent aujourd'hui en Suède. Et vous le savez peut-être, mais pour les Scandinaves, le biathlon, c'est pratiquement une religion. Rendez-vous juste après le rappel des titres de l'info. Europe 1. Europe 1. Et enfin, un point rapide sur l'info avec vous, Fabienne Lemoyle.
Le jour d'après, sur les Champs-Élysées, avec les commerçants qui découvrent avec effarement l'étendue des dégâts, au moins 80 enseignes touchées, dont une vingtaine pillées ou victimes de départs d'incendie. 200 personnes toujours en garde à vue ce midi, dont 15 mineurs. Réunion cet après-midi à Matignon, alors qu'Emmanuel Macron a écourté son séjour à la montagne. Il promet des décisions fortes pour que ces violences n'adviennent plus. Les sports, avec le choc PSG-OM au Parc des Princes, ce soir à 21h, grande soirée sur Europe 1, animée par Lionel Rousseau.
C'était Fabienne Lemoyle. Bon dimanche à tous. 13h, une minute et vous êtes bien sur Europe 1.